Salut Eric, ça va bien?
Oui, toi aussi, Dan.
Oui, ça va bien. Je vais commencer avec du hockey junior. En fait, mon sujet, c'est Jean-Gabriel Pageau, puis tu vas voir que ça va nous amener rapidement au hockey junior. Je le voyais hier marquer 3 buts avec les Sénateurs, premier tour du chapeau en carrière. Puis, c'est un gars d'Ottawa, c'est un gars qui a joué pour les Olympiques. C'est un gars qui a fait son bout de chemin vers la Ligue nationale. D'après moi, il est arrivé dans une ère où on faisait un peu plus de place aux petits, mais pas tant que ça. Dernière année de contrat, il va falloir que Pierre Dorion appelle son agent au plus vite, parce que s'il perd à la fin de l'année, d'après moi, ça va jaser à Ottawa. Ça n'a pas l'impact d'un Eric Carlson, mais c'est un gars qui est très aimé par la communauté de partisans à Ottawa, dans ce qui reste de partisans. Et là, après ça, j'allais plus loin dans mes démarches. Je prenais Pageau, Olympique, parfait. Claude Giroux, Olympique. Puis après ça, j'étais rendu à Max Talbot, Olympique. Ils ont quand même produit des joueurs de centre intéressants. Puis, je voulais te parler parce que tu as dirigé longtemps dans le hockey junior. Je me disais, faut que je demande à Eric si, selon lui, je sais que tu as dirigé pour les Remparts, puis tu ne parleras pas contre les Remparts. L'objectif, c'est pas de parler contre les Remparts ce soir dans mon émission, mais est-ce que tu dirais que les Olympiques de Gatineau, au fil des ans, c'est devenu un modèle à suivre?
C'était longtemps un modèle à suivre. Dernièrement, c'est plus difficile. Là, je sais qu'ils ont eu des chicanes avec la ville par rapport à l'amphithéâtre, mais ça a souvent été une référence, là, avec Charlie Henry qui était là. Tu regardes les coachs qui ont passé, de Pat Burns à Alain Vigneault, à Claude Julien, Benoît Groulx, là, tu vois que la liste est longue. Il y a eu des entraîneurs de renom qui ont été là. Dans ta liste que tu as nommée tantôt, tu as oublié Paul Byron.
Oui.
Mais le Gatineau,
hein, à l'Essensky.
Les Olympiques de Hull. Ah, oui, absolument. Mais tu sais, on voit des joueurs francophones qui ont eu la chance de se développer là. Je regarde Pageau, c'est un joueur qui a joué là junior, qui a eu du succès junior. Il arrivait après Byron, il arrivait après Giroux. C'était le même genre de joueur. Et on a toujours fait de la place à ce type de joueur-là. Et puis, oublions pas là, que Gatineau est un peu précurseur, dans le sens que par la proximité de l'Ontario, ça a souvent été, avant que les clubs des Maritimes arrivent dans la Ligue, ça a souvent été un des clubs les plus bilingues. Là.
Okay.
C'est-à-dire qu'il y a des joueurs anglophones qui ont voulu aller jouer là. Les gars comme Giroux, c'est des franco-ontariens.
Oui.
Byron, même chose, qui ont choisi d'aller jouer à Gatineau là, parce que ça avait été un peu des joueurs cachés qui ont réussi à faire là, qui ont été à se placer là. Mais c'était... Donc, Gatineau est longtemps devenu une pépinière de la Ligue nationale. Ils ont eu beaucoup de succès. Ils ont eu des très bons hommes de hockey. Il faut le reconnaître, là. Ils ont eu une organisation avec des très bons hommes de hockey qui ont fait en sorte qu'ils ont toujours été un peu à l'avant-plan puis avant-gardistes sur bien des choses. Puis oui, pendant longtemps, c'est un modèle à suivre. Moins aujourd'hui parce que les autres équipes ont augmenté aussi leur... disons qu'on a nivelé par le haut. Puis c'est devenu un modèle. Donc, il y a plusieurs équipes qui se comparent, mais c'était longtemps la référence par rapport au fait. Et c'était d'ailleurs une des équipes qui avait le plus de succès en termes de victoire. C'est que oui, c'est une référence, c'est une grande pépinière de la Ligue nationale.
C'est une culture d'organisation rendue là quand tu as parlé de Charlie Henry, tu as nommé des entraîneurs réputés. Tu le sais comme joueur quand tu as 15 ou 16 ans et tu es repêché par Gatineau. Tu le sais qu'en ouvrant la porte du vestiaire, il y a une tradition de gagnant. Tu n'as pas le choix de te forcer.
Ah, t'as absolument raison. T'as absolument raison. C'est comme quand on disait souvent que les gens, il y a plusieurs années, quand les gars arrivaient et étaient dans le vestiaire du Canadien, ça avait un impact, mais Gatineau, c'était là. Puis moi, j'ai eu un patron qui s'appelait Raymond Bolduc, qui était longtemps avant de devenir directeur général, soit avec les Harfins ou s'en venir avec les Remparts. Il était longtemps associé aux Olympiques de Hull, et là, qui a travaillé avec ces gars-là, Pat Burns et compagnie. C'est beaucoup de monde de l'organisation de Hall qui se sont envenus avec les Harfans de Beauport quand les Harfans ont commencé. C'est que c'était, tu vois que les gens essayaient de copier ce qui s'était fait là-bas. Les gens qui travaillaient dans cette organisation-là ont de beaucoup été courtisés aussi pour venir travailler dans d'autres organisations pour un peu copier le modèle. Puis c'est en copiant les meilleurs que très souvent tu t'améliores. Puis c'est un peu ce qui est arrivé. Puis ce club-là a souvent servi de modèle.
Quand tu parles de Raymond Bolduc, ça me rappelle, évidemment, il y a des auditeurs à l'écoute au courant, peut-être qu'on va l'apprendre à d'autres. Raymond Bolduc est à l'origine, à l'époque, d'un précédent quand, en charge du recrutement pour les Olympiques, il avait repêché Philippe Boucher d'âge bantam, il jouait pour l'Express de la Rive-Sud, ça avait créé un précédent, puis la Ligue avait dû trancher, parce qu'à l'époque, on pouvait pas repêcher les jeunes bantam.
Tu as absolument raison. Quand on parle qu'une organisation gagnante pouvait se permettre de faire un move comme celui-là, c'était bien ce club-là. Quand on parlait tantôt que c'est un club qui est avant-gardiste, C'est un club qui essayait d'amener le modèle à un autre niveau, mais c'est un club qui a fait ça. C'est pour ça que ça a longtemps été un exemple. Puis quand on parlait, parce qu'il n'y avait pas beaucoup des clubs des Maritimes dans ce temps-là, les Maritimes n'étaient pas arrivés.
Ouais.
C'est que c'était le club le plus anglophone de la Ligue. Puis en plus, c'est un club qui était éloigné. Tu avais Chicoutimi puis Gatineau. Puis Hull, c'était les deux extrêmes. Là. C'est que ces clubs-là se démarquaient, puis Gatineau l'a fait de très belle façon. Puis c'est comme ça qu'ils ont fait leur marque dans la Ligue. Là. Quand tu regardes le passage des joueurs qui ont été là, que ce soit Jeremy Renick, on pourrait en nommer un paquet.
Ouais.
Mais tu te rends compte des Robitaille et compagnie.
C'est vrai.
Tu te rends compte à quel point cette organisation-là est une grande organisation.
Absolument. OK. Restons dans l'hockey junior. On ira parler de Ligue nationale ensuite. Éric, si tu me permets. Parlons d'Alexis Lafrenière qui débarque au Centre Vidéotron ce soir. Évidemment, il y a plus de qualités que de défauts dans son jeu, mais toi, comme analyste hockey, comme gars qui a dirigé au niveau junior, qu'est-ce que tu vois de lui actuellement qui t'impressionne? Puis sur quoi tu penses qu'il devrait corriger un peu ou travailler un peu?
La plus grande qualité de ce gars-là, c'est de un, comment il peut jouer avec la tête haute puis voir toutes les options. Puis la plus grande qualité que j'y vois, c'est la qualité des grands joueurs qui vont être des vedettes dans la Ligue nationale, c'est comment ces gars-là sont capables de garder la même vitesse en possession ou sans la possession de la rondelle.
Okay.
C'est bien beau être rapide, c'est bien beau être habile, mais souvent, tu as des gars qui perdent de leur habileté et qui sont un petit peu moins performants un coup qu'ils en rondelle parce que leur vitesse diminue. Donc lui, quand à chaque fois je le vois jouer, c'est impressionnant de voir à quel point il peut rester sur le même pace, il peut rester sur la même vitesse qu'il ait ou non la rondelle. C'est ce qui fait en sorte qu'au bout de la ligne, c'est un gars qui est capable de protéger sa rondelle. Ça m'amène à dire qu'est-ce qu'il a amélioré. Il a tellement de talent, c'est qu'en vieillissant, quand il va avoir maturité, à 22, 23, 24 ans, il va être encore plus fort physiquement. Puis à ce moment-là, c'est déjà une machine pour l'hockey junior, mais tu vois qu'il voué une grande carrière de par le fait qu'il est tellement... Il a tous les outils dans son coffre. C'est que la journée qu'il va être encore plus fort physiquement, puis je dis pas qu'il est pas fort physiquement présentement, mais pour jouer avec des hommes, il faut que tu sois fort physiquement. Puis il y a le gabarit pour le devenir fort physiquement. C'est qu'au bout de la ligne, tu sais, c'est toujours le danger, ces joueurs dominants-là. Est-ce qu'ils vont tomber dans la facilité puis travailler un peu moins fort parce que tout est facile pour eux? Je pense que lui, il est capable de en mesure d'élever son jeu. Il a été critiqué un peu l'an passé. Je pense qu'il est bien dirigé à Rimouski avec Serge puis Donald qui font en sorte qu'ils vont le préparer à l'autre niveau. Mais il n'y a pas trop de défauts. Là. Je pense que tout le monde voudrait l'avoir dans son équipe.
OK. Serge Beausoleil, l'année dernière, dans mon émission, m'avait dit, quand je lui ai posé la question, en parlant du temps des fêtes qui s'en vient dans à peu près un mois et demi, il va y avoir une période de transaction. Puis j'y avais dit, si jamais vous n'avez pas l'équipe que vous voulez, que vous allez faire avec Alexis Lafrenière, il m'avait répondu, sans hésiter, on va le garder parce que pour nous, ça va être important qu'il soit repêché dans la Ligue nationale comme un membre de l'Océanique de Rimouski. Donc, après Vincent Lecavalier en 98 et Sidney Crosby en 2005, Lafrenière deviendra le troisième membre de l'organisation à être choisi au tout premier rang du repêchage à Montréal en juin prochain. La question que j'ai pour toi concernant Serge Beausoleil, c'est: est-ce que c'est facile ou difficile de diriger une équipe qui possède un surdoué comme ça?
Bien, tous les coachs voudraient... Il n'y a pas de club facile à diriger.
Okay.
Mais tous les coachs voudraient avoir un Alexis Lafrenière. C'est un privilège d'avoir la chance de coacher un gars comme ça qui fait qu'au bout de la ligne, il n'y a pas un coach qui va refuser ça et qui va dire que ça a été difficile. Puis posez-vous pas la question de savoir si Rimouski va être acheteur ou vendeur, là. Je peux te le dire tout de suite, là, j'ai encore quelques contacts dans la Ligue. Il y a déjà des transactions de fait. Je peux te dire qu'il y a un ou deux gros noms qui sont déjà assurés de s'en aller à Rimouski. Là. Fait que, inquiétez-vous pas là-dessus. Le Rimouski va être acheteur. Ils ont beaucoup de choix de première ronde. Ils ont beaucoup de très hauts choix. Il y a déjà des transactions qui sont déjà faites à ce date-ci. Là, c'est pas vrai, Dan, que ça va se régler à partir de la mi-décembre puis début janvier. Là. Fait qu'ils vont rajouter d'autres joueurs autour de Lafrenière. Puis Rimouski va être très, très dur à battre d'ici la fin de l'année. Ça, j'en suis convaincu.
Qu'est-ce que tu penses du parallèle avec Jonathan Huberdeau comme comparatif pour l'instant?
Moi, je pense qu'il est plus complet qu'Huberdeau à la même âge. Huberdeau est un joueur très offensif. Là. Je peux te le dire, j'étais dans les Maritimes quand il jouait contre moi, puis il en a scoré quelques-uns contre nous autres à Lille. Là. Fait que, je peux te le confirmer, mais c'est un joueur à caractère très, très offensif. On se disait, lui, il va falloir qu'il grossisse physiquement puis apprendre à mieux jouer défensivement. Parce que Saint-Jean était tellement dominant
ouais.
au niveau de l'attaque. C'est que il était bien coaché. C'était Gérard Galland qui était là. Mais c'est un club qui n'avait pas nécessairement à se préoccuper en foot de sa défensive parce qu'il marquait tellement de buts. Tandis que Huberdeau, et Huberdeau, lui, avait, il voyait que dans son ADN, c'était un marqueur, puis c'était un fabricant de jeu, puis c'était un gars qui allait pour l'attaque. Tandis que je pense que Lafrenière est un peu plus complet et domine, parce que Huberdeau était bon, mais n'a pas dominé à un jeune âge, à 16-17 ans, comme l'a fait Lafrenière. C'est un exploit de ce que Lafrenière a fait à 16-17 ans. Un exploit que le Cavalier et les Crosby ont fait. Fait que lui, Huberdeau, a été très bon, mais plus sa carrière junior avançait. Fait qu'il a rentré dans la ligue tranquillement, puis il a fait sa place. Tandis que Lafrenière, dès qu'il est arrivé junior, tout le monde savait que c'était déjà une valeur sûre.
OK. Ligue nationale.
Mais je prendrais Huberdeau dans mon club aussi.
Oui, oui, je comprends. Je comprends. Ligue nationale de hockey, les Devils vont mal, les Leafs vont mal. On en a parlé il y a quelques semaines de Mike Babcock, mais on va le laisser de côté, on va le laisser tranquille un peu pour ce soir. Je vais te parler de M. Hines, qui est l'entraîneur-chef des Devils. Est-ce que Ray Shiro, le grand patron hockey de cette équipe-là, il va regarder sa feuille 8,5 par 11 en fin de semaine, puis là, ils s'en viennent au Centre Bell samedi. Là, il va dire, là, Taylor Hall est là à tous les matchs, contrairement à l'an passé. On a eu Jack Hughes, on a été chanceux, on a gagné à la loterie. Puis j'y ai rajouté Souben, puis il réussit pas à gagner. Là, finalement, il va falloir que je le mette dehors. Si on gagne pas.
Ouais, sauf qu'ils ont eu plusieurs gros essais en prendre, puis tu viens de les nommer. D'ailleurs, moi, je pense que là, son... j'ai regardé jouer hier soir, là, puis oh, pas facile, là, New Jersey. Là, pas facile, puis il est à veille de se passer de quoi, je suis d'accord. Mais deux des grosses décisions sont prises, qu'il y a le même problème que les Islanders ont eu avec Tavares. On dit que ça, tu vas me dire que ça a bien viré parce qu'un coup que Tavares était parti des Islanders, ça a viré de bord, mais je pense pas que c'est à cause de Tavares. Je pense que c'est plus l'arrivée de Prott.
Ouais.
Mais au bout de la ligne, Taylor Hall, ce qu'il a dit aux médias, là, ce qu'il a dit concernant les fans, ce qu'il a dit aux médias concernant les partisans,
ouais.
Ça me confirme que Taylor Hall, il s'est trouvé une excuse en faisant ça pour être certain de dire « Je vais attendre à la fin de l'année pour savoir si je négocie comme Tavares. » C'est clair pour moi que Taylor Hall ne reviendra pas avec New Jersey. C'est que ça, c'est un projet, c'est un premier dossier assez majeur. Hier, quand je voyais jouer Piqué Souban, je pense que c'est sorti moderne et compagnie font en sorte qu'il a peut-être oublié de travailler sur sa condition physique. Mais je trouve qu'il a l'air out of shape, il n'a pas l'air en forme, il ne bouge pas sur la glace. C'est décevant de le voir aller. C'est que New Jersey, oui, je pense que l'électrochoc, encore une fois, ça va être avec les coachs. Ils vont essayer de provoquer de quoi la solution facile en changeant le groupe d'entraîneurs, en changeant leur entraîneur. Ça, c'est le risque. À un moment donné, un gérant va prendre une décision pour sauver la face s'il y a son candidat pour le remplacer. Et de l'autre côté, Taylor Hall, le dossier de Taylor Hall et le dossier de Piqué-Souban, ça appartient pas au coach. Malheureusement, le club va pas bien. Puis je pense que le coach va payer. Mais il y a d'autres dossiers à la table du DG.
OK. On parlait tout à l'heure de l'Océanique puis des anciens choix de première ronde. Ça a été confirmé ce matin, Sidney Crosby. On en parlait un peu hier, possibilité d'opération pour une hernie sportive. C'est confirmé depuis 10 heures ce matin. Il va manquer au moins 6 semaines d'activité. Et j'insiste sur le « au moins » parce que la dernière fois que Marc Bergevin a parlé d'une blessure à Carey Price, c'était au moins 6 semaines puis on l'a pas vu de la saison. Donc, c'est quand même une lourde perte que celle de Crosby avec les Pingouins. Mais à chaque fois que Crosby a dû s'absenter pour des commotions ou des blessures, Eric, Evgeny Malkin a pris les choses en main puis il a quand même réussi à amener les Pingouins en série puis un peu plus loin en série. Malkin est vraiment sous-estimé dans cette ligue-là.
Il est sous-estimé, mais je me demande s'il est en santé. Il vieillit lui aussi. Hein?
Okay.
Si Crosby est blessé, puis si Crosby s'absente, c'est rare que tu vas être opéré pour ce type d'opération-là en début de carrière. C'est plus quand ton corps commence à être usé. Puis quand on regarde au bout de la ligne, il est clair qu'un gars comme Malkin aussi là, commence à être magané et commence à avoir des impacts au niveau de ses performances par rapport au fait qu'il a été blessé à répétition. Donc oui, j'adore Malkin. Tu peux pas, à répétition, passer de Crosby sans que ça ait d'impact. C'est inquiétant parce que 6 semaines, oui, on parle de 4 à 6 semaines.
Ouais.
Et c'est le temps que tu te remettes en forme aussi. Là, c'est pas juste le 6 semaines qui est le problème. Tu peux revenir au jeu dans 6 semaines, mais rendu à cette période-là de l'année, tu prends un retard sur le synchronisme de la game, sur le timing de la game, comme on dit, puis tu fais en sorte que, au bout de la ligne, ça te prend plus que 6 semaines avant de reperformer à ton haut niveau. Ça peut être une histoire de 10-12 semaines Oui, les Pingouins, c'est malheureux. Le temps est encore blessé, mais il va falloir que Malkin soit plus que performant. Puis la profondeur commence à diminuer un peu à Pittsburgh. On a longtemps parlé de profondeur.
Oui.
Mais ça va prendre d'autres chapeaux qui vont, d'autres lapins qui vont sortir du chapeau parce que des joueurs qu'on voyait de nulle part qui arrivaient et qui se mettaient à produire offensivement, souvent ils produisaient parce qu'ils jouaient avec Crosby. Et là, Crosby n'est pas là. C'est que la commande est très forte sur le dos de Malkin présentement.
OK, Eric, avant de te laisser une ou deux minutes sur le Canadien, Marc Bergevin a rencontré les médias hier. Bon, il a parlé de constance, de caractère et tout. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est que le Canadien a l'avant-dernière masse salariale dans cette ligue-là. Pourtant, le Centre Bell est plein. C'est une équipe qui imprime de l'argent. Est-ce que, comme entraîneur, tu penses que Claude Julien, lui, souhaite à un moment donné que Marc Bergevin y ait le feu vert de Jeff Molson pour aller chercher un autre joueur qui gagne plus d'argent pour réellement aider l'équipe?
Je suis sûr que oui. Coach, tu veux tout le temps utiliser au maximum tout ce que tu as le droit d'utiliser. Et présentement, quand il y a un 6, 7, 8, 9 millions qui dort sur la masse salariale, l'an passé, c'était tout près de 8. Cette année, c'est tout près de 5. Au bout de la ligne, ce 5 millions-là, je suis à peu près convaincu qu'il va te permettre d'avoir les deux points de plus. Ils vont te permettre de faire les séries, puis c'est les deux points qui ont manqué l'an passé. Sauf que, pour qu'ils trouvent les joueurs canadiens, ils trouvent un petit peu aussi, c'est pas juste une question d'argent, il y a aussi une question de nombre de contrats. Mais au bout de la ligne, t'en libères, puis il va falloir qu'ils passent par un échange. Puis, tu sais, je le sais qu'on dit que l'économie ne peut pas bouger, là. Mais si c'est vrai que des équipes s'informent de l'économie, ça te libère une place en nombre de contrats, puis tu es capable d'aller chercher un joueur parce que tu as de l'argent sur ta masse salariale. Excuse-moi, Dan, je ne veux pas m'acharner, non, mais je pense que toi et moi, on a un meilleur shot que les Canadiens. C'est qu'au bout de la ligne, il y a moyen de faire de la place pour aller chercher un gros joueur, mais présentement, j'ose croire qu'il n'y en a pas disponible. C'est ça qui fait en sorte qu'ils ne vont pas en chercher. Mais c'est sûr, par rapport à ta question, qu'un coach souhaite qu'on remplisse le trou. On parle d'un défenseur gaucher. On parle d'un attaquant qui pourrait jouer sur le top 6. Va chercher un ou l'autre de ces deux gars-là. Je suis convaincu que ça te permet d'avoir le 2-3 points. Puis là, c'est encore plus clair cette année quand on voit le classement que ça va s'être serré jusqu'à la fin. Puis il faut que tu arrives à la fin et d'avoir fait, à mon avis. L'an passé, il n'a pas eu de mauvais fait. Je pense qu'il faut qu'il y en ait un cette année. Puis que ce soit de remplir la masse salariale ou non, mais il faut aller chercher du renfort, c'est certain.
Puis Eric, s'ils échangent les Canadiens, j'ai une proposition à faire aux Canadiens. S'ils veulent sauver un billet d'avion, je suis prêt à aller leur conduire en auto puis je vais payer le gaz.
Il va trouver une place dans la Ligue. Il y a un bon nom. Sauf que plus on le voit, plus... Lui, là, je me pose la question, pourquoi il n'a jamais été sorti du line-up? Il n'a jamais été retranché de l'alignement. Puis oui, tu as une job honnête, mais au bout de la ligne, là, il y en a d'autres qui payent pour, là.
Eric, dans le Pee-Wee 2A, on dirait son père commandite l'équipe, mais dans la Ligue nationale, on ne peut pas dire ça.
Ta question est excellente. Ton commentaire est excellent. Parce que c'est vrai que ça ressemble à ça pas à peu près. C'est quoi qu'il fait qu'ils ne peuvent pas le tosser? Là, ça... tu te rends compte que le gars commandite le club, c'est lui qui paye l'autobus pour le tournoi Pee-Wee de Joker.
C'est ça.
C'est rien de le faire jouer sur le banc dans ce temps-là.
Ah, c'est ça. Hey, bonne soirée. Salut, Eric.
Salut, Dan, merci.
Bye. Éric Lavigne, le coin du coach, chaque jeudi dans l'avant-match. La CBC et Sportsnet ont perdu Don Cherry. Nous, on a encore Éric Lavigne.